Bien midi, bonne heure de lunch, bienvenue dans Trudeau Landry, vous êtes au FM 93, on est avec vous jusqu'à 14h, après ça, comme à l'habitude, bien sûr, c'est l'équipe de Sylvain qui s'installe, bien sûr, pour vous accompagner dans le retour, Jérôme Landry, Nicolas Lacroix, Jonathan Trudeau, notre ami Alex Tétrault qui est là aussi à la mise en onde, 25226, ça c'est notre numéro de texto, 670-9330. Si jamais vous avez des choses à raconter, à confier à notre ami Alex qui aime ça beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser avec vous autres aussi à l'extérieur des ondes. Gênez-vous pas quand
ça
vous avez quelque
bien.
Chose à ajouter. Ben oui, il aime ça. Il aime ça.
Ils ont plus de jasettes que vous autres pendant l'impose, les auditeurs.
T'es-tu confirmé comme notre nouveau metteur en onde, là, où je devrais peut-être pas amener ce débat-là en onde? On verra. On verra la suite.
Il y a des appels, je te reviens tantôt.
Ça, ça va prendre des
attention,
appels.
C'est difficile, les titres ici.
Oui, exactement ça. 670-9330. On va reprendre notre sérieux parce que j'ai pas des choses le fun à vous annoncer. Ça faisait quelques heures qu'on avait des informations concernant une nouvelle qui, à mon avis, est d'un fort intérêt public. Il y a quelque chose qui circule à Québec depuis plusieurs heures. Ça jase beaucoup sur Facebook. Puis en même temps, j'ai fait quand même plusieurs vérifications, mais je vais quand même y aller au conditionnel, OK? Parce que la santé publique peut rien confirmer de façon claire, nette et précise là-dessus. La santé publique veut pas non plus infirmer ce que je vais vous raconter. Mais il y a plusieurs personnes à Québec qui ont entendu parler dans les dernières heures du décès d'un jeune homme. Je pense que dans la quarantaine, on peut encore parler d'un jeune homme. Un jeune homme d'une quarantaine d'années qui est décédé de la COVID au cours des dernières heures. Et ce jeune homme-là, selon plusieurs sources, était un client du Mega Gym Fitness. Pour être bien clair, comment il a pris la COVID, comment il a été infecté exactement, je vous avoue bien humblement que je ne peux pas vous donner la réponse précise là-dessus. Ce que je sais, c'est qu'il était un client du Mega Gym Fitness. Il a contracté la COVID au cours des derniers jours. Quelqu'un me disait tantôt que son test positif est arrivé autour du milieu de la semaine dernière, OK? On me parle de mardi ou mercredi de la semaine dernière. Et à peu près tous les gens à qui j'ai parlé me mentionnent qu'il était, bon, un client régulier du Mega Gym Fitness à Québec. Un endroit où il y a eu, on est rendu quoi, 357
cas. Quelques colis, ouais.
On parle de 357 cas directs et indirects, 193 cas liés directement au Mega Gym Fitness et 164 autres cas secondaires. Et tout le monde à qui j'ai parlé, je sais que notre collègue Jonathan Bernard a fouillé l'histoire aussi, nous mentionne que il était bel et bien un client. Mais on y va au conditionnel, parce que comme je vous dis, toutes les sources officielles veulent pas donner ces détails-là. Moi, je pense qu'il y a un intérêt public majeur à parler de ça. Mais en même temps, il y a tout l'aspect confidentialité. Il y a l'aspect confidentialité des données médicales, etc., etc.
Mais c'est pertinent.
Mais tout le monde me confirme qu'il était client. Est-ce qu'il a pogné ça là? Je peux pas vous le confirmer. Ça, le moment où il a contracté la COVID, ça, j'ai pas de preuve là-dessus, OK? Ce que je sais par contre, c'est que son test positif, il l'aurait eu au milieu de la semaine dernière. Là, on est quoi? On est mercredi. Je suis un peu mêlé d'un journée avec Pâques, mais milieu de la semaine passée. Mardi ou mercredi, de ce que je comprends, de bonne source. Donc, le résultat, c'est que malheureusement, ce jeune homme-là est décédé. Malheureusement, ce jeune homme-là est décédé dans des circonstances tristes. Et ce qu'on m'explique aussi, c'est que l'endroit où il travaille s'est fermé depuis, je sais pas depuis combien de temps exactement ça, mais l'endroit où il travaille est fermé. Je sais pas exactement pourquoi, je me dis que c'est par mesure de précaution, peut-être que les gens, ses collègues aillent se faire tester.
Ben c'est que comme tu dis, on sait pas si c'est là qu'il l'a attrapé, mais de façon générale, la façon que ça fonctionne, et il y a plusieurs autres exemples, c'est que si par exemple des gens l'ont attrapé dans un milieu comme le Mega Fitness Gym, et qu'il y a une éclosion dans le milieu de travail après ça, ben ils ont pas le choix, faut qu'ils ferment le milieu de travail. Il y a bien des gens qui nous ont écrit que suite à l'éclosion dans le fitness gym, c'était 10, 20, même, j'ai vu quelqu'un qui m'a écrit, c'était 250 personnes qui étaient obligées de rester à la maison parce que dans leur milieu de travail, ben par ricochet, si on veut, le virus était entré là puis était obligé de fermer pendant X nombre de jours. Là.
Selon Yves Poirier, l'hôpital Sainte-Justine confirme le décès d'une personne de 16 ans en lien avec la COVID.
16 ans, OK. Ça, c'est l'autre histoire là, qui vient de sortir, là. Donc, une personne de 16 ans qui serait décédée de la COVID à l'hôpital Sainte-Justine. Donc, voilà, c'est ça vient juste de sortir. Là-dessus, on a très, très peu de détails. Pour revenir à l'homme d'une quarantaine d'années décédé ici à Québec, bon, j'ai vu beaucoup de posts Facebook, puis évidemment, faut pas se fier à des posts Facebook. Comprenez qu'on fait d'autres vérifications également, on fait des appels. Donc, ce que je sais, c'est que cet homme-là est décédé. On sait qu'il y a un homme d'une quarantaine d'années qui est décédé de la COVID. Ça, c'est confirmé aussi dans les derniers jours à Québec. Et on sait aussi qu'il était client du Mega Gym. Puis je vais être bien clair, je peux pas vous dire exactement quand est-ce qu'il l'a pogné, puis où, puis comment. Ça, c'est clair. Mais c'est les détails qu'on a pour l'instant concernant cette triste histoire-là, donc, d'un jeune homme qui est décédé. Puis c'est plate parce que les détails qu'on entend des intensivistes là, depuis à peu près deux semaines, Joe, à peu près, ils nous disent à peu près tous la même chose. Puis je veux pas jouer au peurologue, mais prenez toutes les entrevues faites par le docteur Marquis, le docteur Simon, à qui on parle régulièrement ici dans Trudeau-Landry sur les ondes du FM 93, ils disent toute la même chose. C'est que les variants contaminent des personnes plus jeunes et les personnes plus jeunes développe des symptômes qui sont pires que ceux qu'on voyait avant, que ceux qu'on voyait avant l'apparition des Christie de variants.
Écoute, on verra si on pourra confirmer l'identité de la personne en question, mais je sais que tu as travaillé très fort là-dessus, puis on voit bon des messages passer. Moi, de mon côté, on m'a confirmé que dans la région de la Capitale-Nationale, hier, il y a eu un décès dans la tranche d'âge 40-49 ans. Est-ce que c'est cette personne-là? Ça pourrait effectivement s'entrecouper, si on veut, les deux faits. Une chose est certaine, c'est que sur la pertinence d'en parler, le but ici, là, c'est pas de blâmer encore davantage le Mega Fitness Gym ou son propriétaire ou les gens qui ont chopé la COVID-là. Non, le but, la pertinence d'en parler, c'est de dire à celles et ceux qui demeurent encore sceptiques, à certains niveaux, t'as des négationnistes total, des conspirationnistes, entre ces gens-là et ceux qui respectent au pied à la lettre les mesures, tu as un entre-deux, tu as des gens qui disent « Ouais, mais attends, moi je suis jeune, on a fait ça pour protéger les aînés, je suis en santé, je m'en... » Ben, si des cas comme celui-là, ben, on parle d'un jeune de 16 ans, ce jeune adulte-là de 40 ans,
ouais.
On doit malheureusement utiliser ces cas-là pour dire « Regardez, là, ça existe, et si on se fie à ce que les scientifiques, les professionnels nous disent, il y en aura de plus en plus. Est-ce que il va en avoir 10 500 comme on a eu le nombre de décès qu'on a eu depuis le début avec tellement d'aînés qui sont décédés? Non, mais tabarouette, des jeunes, 16 ans, que ce soit 25, 40, 40, 45, on peut pas accepter qu'il y ait des gens qui meurent de la COVID comme
ça. Non, ça ne veut pas dire que ça va arriver à tout le monde non plus, ceux qui la contractent. Le but, c'est pas c'est de montrer la réalité. C'est de montrer la réalité de ce qui se passe actuellement avec cette maladie-là et les variants.
Et c'est tout à fait pertinent à l'aube d'une obligation de porter le masque dans les lieux de travail demain. Il y a des gens qui vont se demander pourquoi. Il y a des gens qui vont résister. Il y a des gens qui vont chialer. Alors oui, c'est pertinent de mentionner ces deux histoires-là.
Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui nous dit, vous allez où avec ça? Le jeune de 16 ans, c'est la première fois. OK, c'est lui qui t'a lu.
Non, mais je veux dire... Non, mais la personne, elle a écrit, je pense, avant que je dise ce que je viens de dire. Mais on va où avec ça?
C'est à lui que tu répondais, là.
Non, mais ça s'applique, là.
OK, tu l'appliques, OK.
Non, mais c'est jamais grave.
Mais je vais vous lire pareil. La personne dit, vous allez où avec ça? Le jeune de 16 ans, c'est la première fois. En passant, nous attendons encore la hausse des hospitalisations ici et au Saguenay. Bien, la hausse des hospitalisations, il y en a une aujourd'hui. Peut-être nous redonner les chiffres. Joe, tu les avais pas loin,
les chiffres
aujourd'hui.
Pour les chiffres du jour, c'est 1270 nouveaux cas. Malheureusement, 8 décès. Les hospitalisations qui font un bond important, on va se le dire, plus 29. Pour ce qui est de la répartition régionale, Capitale-Nationale, on se maintient autour du 250. En fait, c'est 250 cas pile aujourd'hui. Chaudière-Appalaches, une grosse augmentation. On est passé, je pense, de 104 à 118 hier, et là, on est à 142.
Bye.
Donc, le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, puis même, on peut ajouter le nombre de décès aussi qui est en hausse.
Ben, c'est sûr que ce qui a été annoncé hier, puis, tu sais, hier, ça s'adressait peut-être, disons, principalement, ça s'adressait pas aux gens de la région de Québec, là, le point de presse de François Legault, là, c'était surtout, ça peut-être surtout à l'extérieur, parce que nous autres, on était déjà en zone rouge foncée. C'est sûr que c'est pas le fun, OK, d'apprendre qu'il y a encore un rajout de contraintes et de mesures, etc. Puis, je sais que ce qui est difficile à accepter aussi pour la population, c'est qu'on a dit depuis le début, ce qu'on fait, c'est pas nécessairement pour penser qu'il va y avoir zéro cas. T'sais, on croit pas à ça. Ce qu'on fait, c'est pour protéger les hôpitaux, c'est pour protéger le système de santé. Un système de santé qui, oui, on le sait, a ses faiblesses, puis oui, on le sait, ça a été exposé beaucoup dans la dernière année, mais ça changera pas tout de suite. Et quand on ajoute du confinement, puis que ça apparaît pas dans les hospitalisations, je comprends que les gens se posent la question en disant « Hey, ouais, mais là, pourquoi on fait ça? Il n'y a pas de hausse dans les hospitalisations, il n'y a pas de hausse aux soins intensifs. » Ben là, malheureusement, on commence à avoir une hausse. Tu sais, des fois, c'est plus un, moins deux, après ça, deux journées à moins six, puis après ça, plus un. Mais là, il semble y avoir un début de courbe vers le haut là, pour le nombre d'hospitalisations. Puis ce qui est difficile là-dedans, c'est que on pourra pas dire « Ouais, mais regardez, ça donne rien de faire du confinement. Il n'y a pas de hausse des hospitalisations. » C'est qu'on n'a pas le chiffre si on n'avait pas appliqué les mesures. Il est là le problème. Ça n'existe pas, ce chiffre-là. Là.
Mais là, j'essaie de suivre le raisonnement de certaines personnes. Là. C'était pas grave quand c'était des vieux. Là, c'est pas grave parce que c'est juste un jeune. Puis c'est pas grave parce que c'est juste un 40 ans. Ouf. Dites-nous le nom puis le numéro de téléphone des gens que ça va être grave quand ils vont mourir. Puis on va vous en parler à ce moment-là.
C'est quoi? C'est quand ça va être dans leur propre famille, leur propre entourage. Pour ces égoïstes-là, c'est là que ça va devenir grave. C'est quand ça va être leur grand-père, leur grand-mère, leur père, leur frère, leur sœur ou leur chum ou leur blonde. Là, parce qu'on commence à être là-dedans. Quand on parle de gens de 40 ans qui décèdent là, de la COVID. On commence à être dans une tranche qui va peut-être toucher un peu plus. Là, je parle d'âge, je vais peut-être toucher un peu plus certaines personnes qui sont très, très focussées. Si tu veux me faire décrocher le plus des arguments de quelqu'un, là, c'est quand la personne se met à me parler des âges. Ouais, mais c'est juste des 60 ans et plus. Ouais, mais c'est juste des 65 et plus. Ouais, tu sais, l'espérance de vie, là, c'est 81 ans. Donc, quelqu'un qui a 83, on peut pas se préoccuper de ça. Ah ouais? M'en parlerai si c'est votre père, votre mère.
Il y avait une comorbidité. Oui, c'est la moitié de la population qui a une comorbidité.
Exactement ça. On va aller faire un tour sur la rive sud de Québec. On parle souvent au Dr Dontigny, qui est responsable de la santé publique ici sur la rive nord, capitale nationale. On va aller parler à l'équivalent, mais sur la rive sud, la Dr Liliana Romero, donc d'Issus Chaudière-Appalaches. Dr Romero, bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
Ben merci d'avoir accepté, merci de prendre du temps pour nous parler, Dr Romero. Dressez-nous un peu le portrait. On le disait tantôt, il y a une hausse quand même importante des cas sur la rive sud, dans Chaudière-Appalaches. Faites-nous le portrait exact de la situation présentement.
Je vous dirais que le portrait, c'est très préoccupant. Nous sommes rendus à un lieu où, dans la deuxième vague, ça nous a pris 7 semaines pour arriver là-bas. Et dans le cadre de cette troisième vague, ça nous a pris seulement 2 semaines. Donc, depuis 2 semaines, nous avons quintuplé le nombre de cas dans la région. Ça vous donne une idée du grandeur. Donc, nous avons passé d'un palier vert à un palier rouge très serré. Et ça suivit, bien sûr, dans des différents territoires où, par exemple, la Nouvelle-Beauce, on a 6 fois plus le nombre de cas que la semaine précédente. En Bellechasse, c'est 5 fois plus. Et encore, Beauce-Artigans, Robert-Cliff et Chemin, c'est des territoires et des municipalités très touchés. On voit aussi, et que c'est une chose très importante, on remarque une augmentation du nombre de cas chez les 10-19 ans et bien sûr encore chez nos personnes âgées de 70 ans et plus.
Est-ce que, Dr Romero, la Chaudière-Appalaches a rejoint la capitale nationale là, au niveau du rythme et peut-être même voire dépassé? Là, parce que quand ça a commencé à dégénérer ici en capitale nationale, Chaudière-Appalaches, oui, ça augmentait, mais pas au même rythme. Là, je regarde l'accélération des cas au cours des derniers jours. On a quasiment l'impression qu'en termes de prorata, là, de nombre de cas actifs par 100 000 personnes, la Chaudière-Appalaches est pratiquement en train de devenir même plus préoccupante que la capitale nationale, ou pas loin?
Mais en fait, c'est sûr qu'on est très proche et la tendance épidémiologique, ça suit. Mais pour le moment, c'est encore la capitale nationale qui présente, selon les prorata de la population, un nombre de cas plus élevé. On ne sait pas jusqu'à quand, parce que, comme je vous dis tantôt, la progression est très rapide.
Parlez-nous de vaccination un peu. Il a été question de ça tantôt avec le ministre Dubé. Bon, la stratégie, c'était de vacciner Montréal en priorité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce que les gens dans votre région ont l'air de vouloir prendre des rendez-vous plus qu'il y a de rendez-vous disponibles? Ou parlez-nous de vaccination un peu, docteur Romero, là.
La vaccination au niveau de Chaudière-Appalaches avance très bien. On vaccine en moyenne 2000 personnes par jour. C'est sûr qu'il y a une marée vaccinée plus, et c'est surtout dans l'état épidémiologique actuel, la vaccination, c'est une façon importante pour se protéger. Donc, vraiment, j'espère qu'au niveau gouvernemental, étant donné qu'on est parmi les régions plus touchées présentement, qu'on pourra avoir plus de doses de vaccins.
Un des éléments qui préoccupe beaucoup, beaucoup la population, c'est ce qui va se passer à partir du 12 avril. Le traitement choc qui a été administré doit prendre fin le 12 avril, notamment pour ce qui est des écoles primaires, le retour en classe. Les parents se demandent qu'est-ce qui va se passer lundi. Je sais que c'est la santé publique au national qui va prendre la décision avec le gouvernement. En même temps, ils se basent sur les recommandations souvent qui sont faites par les directions de santé publique régionales. De votre point de vue, docteur Romero, avec la situation actuelle, est-ce que on pourrait penser retourner dans la zone rouge, disons-le, normale à partir du 12 avril?
Écoutez, on sait que les traitements choc, ça sert à ralentir la propagation de la maladie, mais c'est une mesure provisoire parce que c'est très contraignant. Je vous dirais que d'ici au 12 avril, on ne verra pas de grands changements au niveau du nombre de cas, et ça c'est prévisible et c'est normal. Peut-être on va avoir des changements 2 semaines après, à la fin avril, de les mesures qui sont prises dans les paliers de mesures d'urgence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que probablement les enfants et toute la région va retourner aux mesures du palier rouge, du nouveau palier rouge, mais qu'on va suivre de près la situation avec un vigile vraiment très rehaussé pour voir si les mesures en place sont adéquates ou qu'il faudra réajuster dans les semaines à venir.
Merci beaucoup de nous avoir parlé, docteur Romero.
Ça me fait plaisir. Bonne journée à tous.
Merci.
Au revoir, docteur Liliana Romero, donc du CIUS Chaudière-Appalaches. Fait que vous comprendrez que... Excusez, parce qu'il y a plusieurs qui se posaient la question hier. Moi, c'est ça que j'ai pas aimé du point de presse hier, Joe, c'est que je le vois tout de suite sur mon téléphone quand c'est pas clair, quand on s'adresse pas assez clairement aux gens, là. Les gens ont un paquet de questions sur la zone rouge foncée, puis il va se passer quoi à Québec et dans Chaudière-Appalaches à partir de lundi. C'est du rouge rouge ordinaire, là, si vous voulez. Là. Donc, normalement, les écoles vont ouvrir là, lundi. Là.
Ben, en fait, je vais répéter ce que j'ai dit à 10h ce matin pour les gens qui n'étaient pas à l'écoute. Là. Hier, le docteur Arruda, moi, je sais que dans le plan du point de presse d'hier, il n'était pas prévu de donner de réponse sur ce qui se passe à partir du 12 avril parce que il voulait attendre soit à demain, on me dit même peut-être vendredi, avant d'annoncer ce qui va se passer pour le 12 avril, pour les zones rouges foncées. Moi, ce que je comprenais, c'est que, évidemment, et c'est pas la première fois qu'on nous en parle, bien sûr, François Legault, sa priorité, c'est l'éducation, donc... Ma compréhension, c'était que si, par exemple, il disait « ça s'est pas encore amélioré, on doit prolonger le traitement choc », on aurait pu espérer s'attendre à ce que les écoles primaires rouvrent quand même, elles. Que ça se passe, mais que le reste se prolonge. J'ai été surpris d'entendre le docteur Arruda dire hier « à 98% sûr, le 12 avril, c'est la fin du traitement choc ». J'ai essayé de vérifier, moi, ce matin, y a-t-il été trop loin comme la semaine dernière quand ils disent « on peut tolérer 2000 cas,
non, on est plus sûr,
finalement,
on sait plus,
c'était
là.
Pas le cas ». On m'a pas dit qu'il avait été trop loin, mais ma compréhension, c'est que la décision est pas encore prise. Et là, on regarde le nombre de cas qui s'est pas stabilisé, entre autres Chaudière-Appalaches, ça augmente. Les hospitalisations qui augmentent. Jonathan Bernard nous disait qu'à 13h30, le CIUS va faire une conférence de presse sur la capacité d'hospitalisation en Capitale-Nationale. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas le 12 avril. Moi, je pense que si les chiffres se sont stabilisés, on pourra commencer par revenir en zone rouge.
Ça, on vise ça, là.
Viser à retourner en zone orange éventuellement. Mais écoute, j'ai hâte qu'on nous confirme, là, parce que ce matin, il y avait des médias qui allaient voir des commerces non essentiels qui leur disaient hey, « on est content de rouvrir lundi », mais c'est pas confirmé encore.
Non, pas du tout. J'ai une question comme ça, puis je veux pas te surprendre, mais Mauricie Estrie, est-ce qu'il reste en orange, je veux
dire, lundi? Oui, ils sont dans l'orange encore.
Moi, ça me prouve encore que c'était gérable en orange. Et n'eût été de quelques manques de jugement. Puis je sais que la santé publique, ils veulent pas trop aller là. Puis on leur a posé la question, puis... T'sais, ils veulent pas le dire que c'est de la faute du méga gym, puis la faute d'une haute éclosion, SSF, haute école secondaire sur la Rive-Sud. Mais moi, quand je vois Mauricie et Estrie, qui sont en orange, qui vont rester en orange, eux autres aussi, là, les variants, il n'y a pas une frontière dans le coin de Grand Bay où les variants ne rentrent pas. Il n'y a pas une frontière dans le coin de Louisville puis de Yamachiche qui fait que les variants ne rentrent pas en Mauricie, là. C'est gérable. C'était gérable dans du orange. Mais il y a eu quelques mauvaises décisions qui ont été prises, quelques personnes qui ont manqué de jugement et qui coûtent cher à tout le monde. Ça, j'ai bien de la misère à sortir de ça, Joe. Sinon, pourquoi le Strip et la Mauricie réussissent à rester en orange?
Ils sont capables, eux autres.
Ils sont capables, eux autres.
Alors que nous autres,
peut-être pas à l'abri de rien. Il faut faire attention. Peut-être qu'on va s'en parler.
Le feu a pris
très, 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 très clairement. Donc, je vous rappelle ce qu'on vous a appris tantôt, c'est qu'il y a un homme d'une quarantaine d'années qui est décédé cette semaine à Québec de la COVID, qui a eu son résultat de test quelque part au milieu de la semaine dernière et qui est décédé, je vous dirais, j'ai pas l'heure du décès exact, là, mais en début de semaine, cette semaine. Et ce qu'on sait, c'est qu'il était client du Mega Gym Fitness, plusieurs sources qui nous indiquent ça. On ne sait pas, par contre, où il a pogné la COVID, où il a été contaminé exactement. Ça, on n'est pas capable de mettre le doigt là-dessus. Bon, on sait qu'il était client. On sait qu'il est décédé, malheureusement, et qu'il était atteint de la COVID.
On me dit que la source suspectée serait le Mega Gym. Bon. C'est dans l'enquête épidémiologique.
M'amener, j'essaie d'être prudent, mais c'est ça. M'amener, les sources aussi, l'info se développe aussi au fur et à mesure qu'on en parle. Et je pense que c'est une nouvelle importante d'un fort intérêt public. Sauf que ça démontre où ça peut mener la COVID-19. Même pour des gens qui sont plus jeunes, qui sont pas nécessairement ceux qui étaient les plus vulnérables au début de l'histoire. Midi 22, si vous avez d'autres infos, 25226, jérôme.landry@cogecomedia.com. Vous pouvez écrire à mes collègues également. On vient.
Trudeau-Landry. On prend un break?